BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, on vient de parler de l'anthropique Claude Mythos, hein, cette IA qui affole un peu les compteurs, notamment au niveau cyber, avec nos débriefeurs. Et on va regarder là, plusieurs sujets, notamment tiens, la valeur du token qui est au cœur des projets IA, avec Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme, patron du digital chez Framatome, membre du COMEX, Stéphane Roder, fondateur d'AI Builders, et Eric Campanini, associé chez Alixio Group. Vincent, c'est toi qui avais remonté ce sujet-là, c'est la sortie de Claude 4.7, on est encore chez Anthropique, un peu meilleur, mais deux fois plus cher. Il est de plus important, tu dis, il est de plus en plus important de regarder l'axe coût token. Alors, on peut aller voir ce slide sur w.longterme.org sur les. Voilà, on peut retrouver ce parce que c'est il est assez complexe, hein, mais il montre quand même le coût token token requête.
C'est ça. C'est-à-dire jusqu'à présent, quand on regardait du token. On allait chercher le modèle le plus performant du marché, le côté coût, on ne regardait pas. Bon, plus ça devient gros, plus c'est important, plus il faut regarder les deux axes. Et là, on voit qu'en termes de performance, Claude, il y a une petite amélioration, mais qui n'est pas si forte que ça. Il y a même des cas de régression qui sont signalés, hein, où 4.7 fait un peu moins les choses. En revanche, en termes de coût, il est deux fois plus cher. Alors, il n'est pas deux fois plus cher parce que le coût par token affiché est plus important. Ils ont changé la tokenisation. Donc, en fait, ils prennent des syllabes plus courtes. Et donc, ça coûte plus cher. Et donc,
avant, on avait trois syllabes. Maintenant, on fait six syllabes.
Ouais, comme ça dépend des moments.
Comme on paye à la syllabe. Voilà.
En moyenne, c'est plus cher à cause de ça. Et donc, Gemini reste proche en qualité.
Et pourquoi ils l'ont mis plus cher? Parce que justement, il faut que ce soit... Il y a une recherche de ROI.
Alors, ce qui semble, c'est que c'est pour des raisons techniques. C'est-à-dire que ça fonctionnait mieux, mais ça a la conséquence d'augmenter
le cas. Ça pose encore une fois le problème de l'adaptation du modèle à la requête. Aujourd'hui, on a tous les assistants qu'on utilise ont un modèle figé. Et alors qu'on devrait avoir une sorte de routage en fonction du type de requête, on va prendre le modèle le plus adapté et finalement optimiser les coûts. Et ça, c'est pratiquement nulle part. Et c'est une vraie nécessité dans l'entreprise.
Moi, je pensais que pourtant, on nous vend souvent ça. On nous dit souvent, l'IA que vous avez dans l'entreprise, là, selon le type de requête, elle va vers l'un ou vers l'autre.
Dans un même modèle, oui. On a une mixture of experts qui fait ça, qui va prendre une partie des modèles. Mais par contre, tu as choisi un modèle. Et il n'y a pas encore cette fonction qui permet, en fait, de router. Et
si je fais des mathématiques, je vais plutôt prendre tel modèle. Si je fais
Et tu n'as pas besoin du 4.7. Et d'ailleurs, il y a une chose très marrante, c'est que depuis ce matin, dans Cowork, il y a marqué non, ne prenez pas 4.7. Prenez un autre, vous pourrez rester plus longtemps. Donc, déjà, ils se sont aperçus que ça allait bloquer tout le monde.
Oui, donc par rapport à ce coup. Eric, comment tu regardes
ce qu'on a vu là sur l'année passée, c'est devant la course des différents modèles, les entreprises se sont dit finalement, je vais mixer les modèles. Ça déporte une part de la responsabilité sur l'utilisateur de savoir quel modèle il faut que j'utilise en fonction de quel cas. Et ça amène aussi un constat qui est que l'IA est en train de se commoditiser, un peu de la même manière que le cloud, un peu de la même manière que l'électricité, un peu de la même manière que la bande passante, qui en fait, comment est-ce que je peux trouver le meilleur modèle au meilleur coût? Et la majeure partie des employés aujourd'hui ont besoin d'un modèle suffisamment bon au coût le plus bas. Ouais. Donc il y a d'un côté les utilisateurs qui doivent monter en compréhension de quel modèle utiliser, et côté DSI, ça fait peser un poids effectivement, parce que les coûts peuvent s'envoler de façon extrêmement rapide.
Oui, parce qu'on n'est pas dans le token à la demande. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans les entreprises en général. On dit un certain budget de token ou alors...
Déjà, il y a des entreprises, on pourrait penser à elles, qui ont signé des grands partenariats avec tel géant de l'IA, donc qui ont dû prendre du gelé leur prix du token. Ouais. Eux, ils doivent souffrir. Mais sinon, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, ça commence petit, donc on est dans une logique où la facture monte, mais effectivement... À un moment, il va falloir mettre ça sous contrôle. La bonne façon pour moi, c'est les informaticiens qui font le boulot. C'est-à-dire qu'il y a un front-end pour l'utilisateur, et puis derrière, le choix du meilleur modèle, c'est fait de façon technique pour que mon assistante, elle ne se casse pas la tête de savoir est-ce que je dois utiliser Claude ou Mistral, on ne va pas l'embêter avec ça.
D'accord.
Maintenant, il y a une vraie réflexion à avoir en termes de coût complet, parce qu'effectivement, si ça m'apporte plus de précision, moins d'erreurs, moins de supervision humaine, in fine, ça peut coûter moins cher. Mais c'est ce calcul-là, effectivement, qui est complexe. Et le revers de ça, ou du moins le miroir, parce qu'effectivement, tu as parlé côté DSI, l'importance de ce travail-là, c'est, tu l'évoquais tout à l'heure, on voit émerger, notamment aux États-Unis, des candidats qui arrivent et qui disent « Ok, combien tu me payes pour ce job-là et combien tu m'alloues de tokens, effectivement, dans l'année, pour que je puisse vraiment travailler et être augmenté ?»
Ouais, le premier que j'avais entendu parler de ça, c'était Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui a dit « Moi, mes ingénieurs, je les rémunère à la fois voilà, de façon assez classique, puis en coup par token. » On va y revenir dans un instant. Mais est-ce que ça veut dire, Stéphane, aujourd'hui, quand sur des projets d'entreprise, est-ce qu'il faut dire « Tiens, vous allez prendre tel budget de qui correspond au token que vous allez utiliser ?» Garder quand même une certaine marge parce qu'il y a des fois, il va falloir aller plus loin. Mais comment ça se passe justement pour ça, pour pas tout d'un coup avoir une facture qui va exploser?
Aujourd'hui, on prend des abonnements. Donc, on essaie de limiter finalement la casse et en faisant un choix finalement de modèle. Mais encore une fois, c'est totalement sous-optimisé et on prend des engagements à long terme alors qu'on sait très bien que c'est une pente décroissante. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas le bon modèle de coût, pas du tout adapté à ce qu'on veut faire, parce que c'est encore trop flat. Il faut que ça soit optimisé à chaque moment de l'utilisation. Alors moi, je ne pense pas par les directions techniques, parce qu'elles n'ont pas que ça à faire. Il faut que ça soit inclus.
Ah non, c'est robotisé.
Oui, robotisé. Oui, mais il faut que ça soit inclus par le vendeur de modèle. Il faut qu'il te dise, oui, t'inquiète pas, je vais t'optimiser tes coûts de token parce que j'ai changé de modèle.
Mais c'est plus difficile quand tu as plusieurs opérateurs qui te proposent ça, quand même.
On ne peut pas rester avec des modèles qui ne bougent pas.
On est comme au début du cloud, c'est-à-dire que ça démarre, les trucs sont en train de monter au ciel, les gens ne l'ont pas vu. Et à un moment, il y a le financier qui va arriver, qui va dire c'est quoi ce truc. Puis les gens vont dire bon, on a fait du FinOps sur le cloud, maintenant on va faire du MLOps. Et puis voilà.
Ouais, rappelez-vous les débuts du cloud, c'était IBM le business on demand. Voilà. On ne consomme que ce dont on a besoin. Je reviens à l'instant et ça nous permet de passer au troisième sujet là sur la Gen Z, l'IA. On va en reparler, la génération augmentée. Mais juste un mot là-dessus parce que c'est cette nouvelle tendance. On demande son salaire, le budget en token qui sera alloué, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et effectivement, tu Steve Wang là qui avait fait cette intervention là en se disant. Si j'ai un ingénieur que je paye 500 000 dollars et qui consomme pas au moins 250 000 dollars en token, j'ai un problème. Mm-hmm. Et s'il me dit qu'il a consommé que 5 ou 10 000 dollars, c'est que vraiment, vraiment, il y a un problème dans l'histoire. Donc c'est assez intéressant et assez amusant de voir que finalement, ça s'intègre complètement dans un processus RH de recrutement et dans un processus d'évaluation. Et de devoir consommer le maximum de token. Donc il y a cette tendance-là qui est plus un clin d'œil. Derrière, il y a un peu de frugalité aussi. Ouais. Prendre conscience que chaque fois que je fais une requête IA, derrière, ça coûte en énergie et en eau. Ça montre aussi, alors chez les plus jeunes, on en parlera après, un début de fracture entre ceux qui les utilisent pas du tout ou ceux qui les utilisent. Et plus ou moins bien, je pense qu'on a tous été confrontés à la situation du jeune qui vient avec, effectivement, un document ou un livrable. Et on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as écrit ça? Je sais pas, c'est ChatGPT ou un autre qui l'a écrit à ma place.
Ça montre qu'aujourd'hui, en fait, les gens qui souhaitent être recrutés sont conscients des moyens qui doivent être mis à leur disposition. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, on en parlait, les développeurs disaient quelle est l'instance de cloud que vous avez. Ils voulaient savoir si c'était sur AWS ou Google, sinon ils disaient laisse tomber. Là, c'est pareil, finalement. Les jeunes qui rejoignent les entreprises sont conscients en fait de l'apport de l'IA et c'est une manière de tester aussi la maturité de l'entreprise.
Mm-hmm. T'as aussi l'inverse. Le nom de la tendance s'appelle le token maxing. Donc effectivement, pousser les gens à maximiser la consommation de tokens, on voit bien que si on pousse le système jusqu'au bout, c'est un peu l'histoire, on fait tourner les camions dans la cour pour consommer de l'essence. Donc ce qui est effectivement un bon indicateur, si on pense que ça augmente la productivité, effectivement c'est un bon indicateur de regarder si les gens l'utilisent. Mais si l'indicateur devient la finalité, on voit très bien que ça ne va pas être la bonne chose. Si les gens se mettent à faire tourner la machine à tokens uniquement pour faire augmenter leurs chiffres et avoir de bonnes évaluations, ça ira pas dans le bon sens. Donc je pense ça montre qu'on est aussi dans une zone un peu d'immaturité et qu'on n'a pas les bons indicateurs, on en utilise peut-être de mauvais à la place.
Mmh. On est au tout début.
Alors autre chose sur laquelle on est au tout début, c'est justement ce sujet entre la Gen Z et l'IA, donc la jeune génération aujourd'hui. Génération désenchantée par l'IA, C'est ton regard. Enfin, oui, en tout cas, à partir d'une étude. Hein,
voilà, après, les dernières études montrent que, c'est notamment une étude Gallup là, qui, sur l'engagement des collaborateurs, plus particulièrement sur la Gen Z, donc ceux qui sont nés entre 97 et 2012, donc pour partie qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, en fait, une chute de l'excitation qu'avait représenté l'IA et notamment les LLM. Et on est tombé à 22%, ça chute en un an de 14 points. Et parmi cette génération Z...
Là, on est au niveau mondial.
On est au niveau mondial, exactement. Et par rapport à cette génération Z, la moitié disent aujourd'hui qu'ils estiment qu'il y a plus de risques de déployer l'IA au travail que de bénéfices pour eux. Même sur les populations les plus jeunes, les populations intéressées par la cyber, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, on voit une raréfaction de ces postes-là offerts parce que toute la partie qu'on appelle un peu groundwork, qui travaux de base, sont pris effectivement par l'IA. Avec des chiffres qui ne sont pas dus seulement à l'IA, mais quand tu regardes aux États-Unis, les dernières études montrent que le taux de sous-emploi des jeunes est de 42%, c'est ce qu'on avait au moment du Covid. Mm-hmm. En Irlande, autre élément que j'ai trouvé intéressant, sur le recul de l'emploi de 20% sur les 15-29 ans dans les entreprises de la tech. Et en regard, c'est sur les 30-59 ans où on voit une progression de 12%, et donc une sorte de prime à la séniorité, ce qui est un peu inattendu, et pour les personnes autour de la table, plutôt un message d'espoir.
Vincent.
Alors, je pense qu'il y a... Il y a trois choses. D'abord, de tout temps, dans tous les pays, les entrants sur le marché du travail prennent les ajustements à la hausse et à la baisse de façon démultipliée. C'est-à-dire quand ça va mal, ça va très mal pour les jeunes. Quand ça va bien, ça va beaucoup mieux pour les jeunes. Et c'est encore un peu plus amplifié en France, où le turnover moyen du marché du travail est plus faible. Donc effectivement, c'est pour ceux qui entrent que c'est le plus difficile. Deuxième point, ce qui a été montré aussi par les études, c'est que la date d'entrée a un impact durable sur la carrière. Par exemple, les gens qui sont entrés sur le marché du travail en 1929, année de crise, pendant les décennies qui suivent, ils ont un impact sur leur pouvoir d'achat, leur richesse, le type de job qu'ils ont eu. Et donc on a aussi ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un effet purement macroéconomique d'un ralentissement. Après, si on regarde les chiffres de productivité et d'augmentation des salaires depuis 1860, on voit que les deux courbes, elles se décollent jamais totalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites accélérations, il y a plus de productivité, un petit effet emploi, mais durablement, ça s'est toujours rattrapé et il n'y a pas eu d'exception.
Ça, c'est un des points que l'on voit dans le rapport de la productivité, encore une fois, sorti par l'Observatoire du long terme, dont on parlera, ce sera le 11-12 mai, on aura Gilles Babinet aussi, mais c'est quelque chose qu'on voit qui n'a pas eu un effet IA, finalement, on est...
Alors, l'IA, c'est un peu tôt, mais on va regarder les autres révolutions, sur les autres révolutions, y compris Internet, on n'a jamais eu ça. Regardez l'impact sur l'emploi, l'Internet, en 2000, en France, le taux d'emploi des seniors était de 10 points, aujourd'hui c'est de 40 points. Le taux d'emploi des jeunes était de 29, on est passé à 35. Donc il n'y a aucun signe que les précédentes révolutions industrielles n'aient eu cet effet. Et par contre, à chaque fois, il y a eu cette crainte. Alors, est-ce que ça sera totalement différent ou est-ce qu'on va retrouver ces phénomènes qui aient des effets d'apprentissage, des petits effets de décalage? Et puis là, on a des effets conjoncturels, de pouvoir d'achat liés à une situation... Qui peuvent cacher ça. Et c'est là, je voudrais aussi un peu de pensée pour les Gen Z. Il ne faut pas négliger l'accumulation, les guerres, le Covid, les crises de pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu à réenchanter le monde pour nos jeunes, au-delà même des questions d'IA et de technologie.
En 5-6 ans, entre le Covid et évidemment tout le contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué.
Oui, ça pose une question pour l'entreprise sur... pas tellement la disparition des emplois, mais la disparition des premières marches. Et donc, qu'est-ce que je fais pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail pour les former, les accompagner et qu'ils puissent devenir effectivement les seniors qu'on attend. Donc, ça pose aussi une responsabilité d'entreprise vis-à-vis de ces jeunes-là sur l'intégration.
Pas que l'entreprise. Je pense que ça change. Ça va aussi changer les cursus académiques. Ça ne sert à rien de faire des cursus finalement qui sont remplacés ou complété par l'IA, il va falloir changer aussi le braquet côté en amont, côté académique.
Oui, c'est ce que disait le patron de l'EPITA, donc qui est une école en 5 ans, une prépa intégrée, il me racontait qu'aujourd'hui, la différence entre un élève de 18-19 ans qui entre en première année avec celui qui sort en 5e année, donc de 22-23, elle est complètement... Enfin, il y a une vraie fracture, alors qu'avant, évidemment, oui, il y avait un peu d'écart parce que ce n'était pas les mêmes technos, mais là, avec l'IA, il y a un vrai changement entre les deux.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, regardez la formation des développeurs, un développeur, mais même enfin, il y a 20 ans, il savait qu'il sortait, que ça allait changer tous les 2 ou 3 ans, donc il pouvait s'adapter. Et il s'adaptait pas en allant dans des cours, écouter des gens, mais en utilisant des outils Internet. Et donc, je pense que ce qu'on va avoir, c'est que dans tous les autres domaines, on va se rapprocher des modes de formation continue que les développeurs ont intégré depuis des décennies.
Mais qui sont compliqués, je pense, pour les académies.
Ah, c'est un changement. Pour les personnes, hein, c'est un changement de mindset.
Parce que tu vois, on parlait des développeurs dans l'Alipita très techno. C'est facile pour les profs. Par contre, des profs plus littéraires, plus on va se rapprocher du littéraire, plus ça va être compliqué, c'est loin d'eux. Et alors que l'impact est énorme aussi.
Maintenant, il y a aussi, pour donner un message positif, une grande partie de cette Gen Z qui a bien compris l'usage de l'IA. Et je regardais les dernières statistiques là, enfin les dernières études, qui montrent que les recruteurs reçoivent entre 3 à 5 fois plus de candidatures parce que les candidats ont compris qu'ils pouvaient automatiser l'envoi de CV et donc les recruteurs se trouvent complètement submergés. Donc, c'est aussi un...
Alors, j'en ai reçu un la semaine dernière et j'ai reçu sur mon téléphone où en fait les PDF s'affichent avec les couleurs inversées. Et je vois au milieu du CV, normal sup, polytechnique. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ça ne s'affichait pas normalement. Il avait donc mis des mots cachés pour que le filtre par l'IA fasse remonter son CV dans la file, alors qu'il n'avait pas du tout ses compétences. Alors j'ai demandé à l'IA, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il a dit normal sup.
Il avait écrit en blanc sur blanc. Donc quand l'IA transformait ça en texte, ça sortait dans le texte, mais toi tu le voyais pas. Le conseil de l'IA, c'est bon, fais-lui la remarque. Faut pas trop lui en vouloir. C'est un jeune, et t'as été jeune aussi, mais quand même, c'est pas des choses qui se font. Donc faites attention. Maintenant, il y a plein de systèmes d'ailleurs qui les détectent et qui éliminent les CV quand il y a ce genre de choses.
J'avais entendu ça. Autre sujet, Stéphane, c'est toi qui l'avais remonté. L'article 15 de la loi de simplification de la vie économique a été voté, permettant d'accélérer l'installation de data centers en France en leur donnant le statut de projet d'intérêt national majeur. On avait ici même la présidente de Infranum, qui nous disait il y a quelque temps, en France, pour installer un data center, c'est 5 à 7 ans, là où ça prend 2 ans, peut-être ailleurs en Europe. Donc là, on va pouvoir accélérer un peu tout ça ?
On va pouvoir beaucoup accélérer, et contrairement, je ne sais pas si vous avez vu, mais aux États-Unis, où...
Dans le Maine, on a des populations qui ont dit non et qui ont réussi à stopper des chantiers ou des contrats.
Mais pourquoi ? Parce que, en fait, l'électricité est privée. Et si jamais un data center venait à partager l'électricité, ils ont peur que eux, citoyens, soient obligés de payer. Ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, on a cette chance, avec la loi de simplification, de pouvoir installer de plus en plus de data centers plus rapidement. Et c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça fait 5 ans que je viens de te le dire, il faut créer une filière complète qui va des data centers jusqu'au soft, en passant aussi par les processeurs. Il faut qu'à un moment, en France ou en Europe, on se dote de processeurs.
On dit 40 milliards, il faudrait pour...
On a fait d'autres choses à 100 milliards, et puis il va falloir le faire. De toute façon, on va y passer.
Ouais. On regarde là-dessus, Vincent.
Ouais, d'abord, enfin, que les usines du 21e ou du 22e siècle viennent chez nous, c'est bien. Que des data centers soient en France, je rappelle que l'intensité en carbone dans l'énergie, c'est 20 grammes par kilowattheure en France, c'est 25 fois plus en Chine, c'est 15 fois plus aux États-Unis ou en Allemagne, donc c'est bien pour les Français, c'est bien pour le reste du monde.
Après, ce sont des technologies en plus qu'on maîtrise. D'énergie décarbonée.
C'est une technologie qu'on maîtrise, le profil de charge, il est idéal. C'est-à-dire que c'est la charge stable dans le temps qui ne bouge pas. Donc, ça, pour du nucléaire, c'est parfait. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, il faut espérer que, comme tu le disais, les autres maillons de la chaîne de production IA, donc c'est les TPU, c'est aussi un modèle qui puisse suivre.
Toi qui as eu un parcours à la fois dans des administrations, dans des grandes entreprises, on peut y croire, là, parce que quand tu vois un peu les circuits de tout ça, on peut y croire d'avoir un jour des usines, vraiment, d'avoir un jour ces 30-40 milliards sur la table et de se dire, allez, les gars... Il est temps d'y aller sur les microprocesseurs.
Alors, qu'on puisse réduire les délais pour les data
centers, même sans aller chercher du 2-3 nanomètres.
L'investissement, en fait, on voit que la barrière à l'investissement pour faire ses propres processeurs a baissé, notamment avec le développement d'un certain nombre de composantes open source. Donc, d'ailleurs, pratiquement tous les hyperscalers ont leur projet de développement. Donc je pense que c'est à la portée de main de l'Europe et je pense qu'effectivement, c'est notre intérêt.
Qu'il faille l'aille, oui, que ce soit une bonne nouvelle, oui. Ça crée des emplois, un hyperscale, c'est entre 100 et 300 emplois, c'est des milliers d'emplois autour. Après, il faut aussi relativiser. On a un vrai avantage concurrentiel énergétique, ça je rejoins tout à fait. Maintenant, les emplois dans les data centers sont parfois pas très durables, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'automatisation. Il y a un deuxième phénomène économique, c'est qu'on construit les data centers, mais qu'ils sont opérés par d'autres. Donc la valeur, effectivement, nous échappe. Donc ça, ça pose effectivement des questions derrière. Maintenant, il faut y aller. Certes, c'est ultra énergivore, et tu parlais des États-Unis, on peut parler aussi de l'Irlande, qui, dès 2021, a fait un moratoire en disant, notamment autour de Dublin, voilà, ça consomme tellement d'électricité et tellement d'eau qu'on ne veut pas de ces data centers à côté de chez nous. On a la chance aujourd'hui, entre guillemets, que les data centers ne représentent que 2-3% de l'énergie. RTE nous programme, peut-être même si on doublait ou on triplait, on a tout à fait les capacités à l'absorber. Donc il faut y aller, il faut accélérer les choses, et ça créera peut-être même un peu de pression sur les énergies alternatives.
Moi, je crois toujours au bienfait des technologies, hein, parfois un peu de façon naïve, mais je me dis, oui, ça consomme de l'eau, mais un jour, on va trouver des technos qui consommeront moins d'eau, qui consommeront de l'huile. Enfin, il y a déjà, ça existe un peu.
Ça ne fait peut-être pas les emplois directs, mais ça fait beaucoup d'emplois indirects. Ne serait-ce que pour le raccordement, RTE, apparemment, pose un boulot énorme. Et c'est du bâtiment. Refaire du bâtiment, on dit quand le bâtiment va bien, tout va bien. Ben là, pour le coup, on va faire du bâtiment.
Oui, et puis tu as la partie RTE, tu as GRDF derrière, qui fait du gaz vert aussi. Il y a des perspectives sur le biométhane. Enfin, c'est profiter d'une position extrêmement intéressante sur l'électricité de façon générale, et sur le gaz en particulier.
Alors, c'est intéressant. Bon, c'est quand même des choses très, très, très capitalistiques. Donc, on ne fait pas ça pour le nombre d'emplois. On fait ça pour l'intérêt
souverain,
en termes de stratégique. Après, c'est aussi l'occasion de rappeler une chose. Tu parlais d'efficacité. Effectivement, c'est la question aussi qu'on peut se poser, parce que tous ces data centers... Bon, je rappelle quand même l'un des seuls produits dont le prix n'est pas augmenté malgré la crise de l'énergie, c'est le token. Ça c'est la preuve vivante que les efforts d'amélioration de l'efficacité des modèles ont réussi à compenser les hausses de prix. Hein. Vous n'avez pas vu ça sur d'autres produits.
Un tout dernier mot, il nous reste moins de 3 minutes parce que je voulais vous entendre là-dessus. Vous avez certainement vu ces images là, il y a quelques jours. Donc c'était un semi-marathon en Chine et c'est un robot qui a remporté. Alors évidemment, il y a la course humaine, la course robot à côté. Alors allez voir les images parce qu'il y a des robots qui se disloquent. Enfin, c'est assez amusant. Mais il y en a un, 25 km/h. Alors on ne sait pas s'il a été rechargé sur place, mais on arrive quand même là à quelque chose d'assez impressionnant. L'année dernière, il l'a fait en 3 heures. Cette année, il le fait en 51 minutes. Un champion du semi-marathon le fait en un peu plus d'une heure, tout juste. Donc on voit quand même la vitesse. Mais au-delà de ça, c'est quand même la performance d'avoir un robot pendant 50 minutes qui court. Alors encore une fois, est-ce qu'il est passé au stand pour se recharger? On ne sait pas. Mais je trouve que là, on est en train de franchir une étape là, dans ces robots bipèdes.
Je n'ai pas fait le marathon de Paris comme toi, donc je suis content que les robots fassent les tâches difficiles quand je veux me débarrasser de ce côté-là.
On aura son avatar robot.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, d'une année sur l'autre, le temps a été divisé par deux. Une autonomie quand même sur une distance de plus de 40 km, le truc est parti. Alors, on voit qu'il y a un certain...
C'est 20 km là, c'est ça, c'est un semi.
Il y a certains cas où des personnes les suivent avec des télécommandes, ça montre quand même qu'il y a un niveau de technologie. Bon, ce qui est aussi amusant, c'est de voir tous les différents robots, parce qu'effectivement, celui qui est arrivé, chapeau, et puis il y a tous ceux qui se sont cassés la gueule, il y en a un, on voit les pièces qui sautent en l'air.
Il y en a,
qui a une espèce de drone avec des hélices et qui file directement dans les tribunes. Donc je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs sur les jeunes, dans la technologie, ce qui est fascinant, c'est la phase d'exploration. On a des tas de choses nouvelles. La phase un peu plus pénible, c'est la phase d'exploitation. On choisit un modèle et là, on fait du process. Ouais. Et ce qui peut expliquer aussi le blues des jeunes sur l'IA, dans l'exploration formidable et l'exploitation, t'as un robot LLM qui va te dire ce que tu dois faire.
Ouais.
En fait, on voit une vraie rupture là en ce moment sur tout ce qui est robotique. On voit finalement l'IA s'intégrer vraiment au monde des robots. On l'a vu arriver avec le Generative Physical AI, c'est la compréhension statistique du monde. Là, on le voit avec l'apparition des World Models. Pour le coup, il y a
pas... World Models qui prennent en compte tout l'environnement, le son, l'image...
Et la gravité, enfin les problématiques de
station. Oui, parce qu'un robot bipède, il faut bien se dire que même immobile, il y a du calcul derrière, parce qu'il faut qu'il se tienne...
Voilà. Et donc, en fait, il y a une vraie révolution. On en parlait tout à l'heure de l'IA arrive dans la cyber, l'IA arrive vraiment dans la robotique et ça va changer. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de voir sous nos yeux.
Oui, et puis il y avait une grande question à un moment donné de savoir s'il fallait faire des robots humanoïdes ou pas. En fait, vu que notre environnement est construit pour des humanoïdes, bipèdes, etc., il y a un vrai intérêt à pousser dans ce sens-là. Mm-hmm. Tu parlais des world models, effectivement, pour s'adapter à cet environnement fait d'abord pour les humains. Et ensuite, derrière, effectivement, le côté très amusant de ces robots qui tombent, etc., il y a une opération de com, oui, de rendre ces robots plus sympathiques, plus accessibles, pour que demain, ils rentrent chez nous de façon beaucoup plus rapide.
Parce que c'est quand même, je crois qu'un robot humanoïde, c'est quand même 40 à 50 mécanismes intérieurs qui
100 000 dollars.
Ouais, voilà, le prix. Et souvent, on entend ça dans l'intégration dans l'industrie. J'étais au Global Industry il y a quelques jours. Me disait, bon, un bras articulé, c'est 6 mécanismes, une précision diabolique. Voilà, faut pas non plus mettre ces robots humanoïdes partout. Mais c'est vrai que je trouvais intéressant de parler sur ce clin d'œil, mais qui en est un pour l'instant, mais qui marque une vraie tendance. Merci à tous les trois. Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme, patron digital chez Framatome, membre du COMEX. Stéphane Roder, fondateur des AI Builders. Et Eric Compagnie, associé à Nixio Group. Merci de nous avoir apporté votre éclairage sur l'actu IA. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.